This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour les temps forts de l'actualité de la semaine avec ce soir pour la rédaction en anglais Christina Okello.
Good evening.
La Dan Firouzbar de la rédaction Persane.
Salam.
Et Théung Pham de la rédaction vietnamienne.
Xin chào.
Bonsoir à vous. Il est extrêmement important que le silence qui entourait ces questions de scandale sexuel ait été brisé. L'ensemble du secteur humanitaire se trouve à un tournant de son histoire. Voilà ce qu'écrit dans un communiqué diffusé il y a une heure maintenant par la Croix-Rouge, par son directeur général. Yves Daccord juge nécessaire un changement de culture au sein du CICR. Cet appel survient dans le sillage du vaste scandale touchant l'organisation britannique Oxfam, incluant des faits de prostitution en Haïti, et il vient s'ajouter à la démission du numéro 2 de l'UNICEF, un Britannique, accusé de comportement inapproprié envers des femmes alors qu'il travaillait pour l'organisation Save the Children. Alors faisons le point avec les rédactions en langues étrangères de RFI. Théung Pham, ce n'est pas la première fois que les employés d'une ONG sont ainsi impliqués dans pareil scandale.
Oui, d'abord je voulais rappeler que Oxfam a été présent au Vietnam depuis 1955 et il continue de travailler pour des projets contre la pauvreté au Vietnam. J'espère qu'il n'y a pas de cas similaires dans ce pays. En tout cas, Oxfam n'est pas la seule ONG touchée par ce scandale. Il y a quelques heures, CICR a dévoilé 21 cas de missions pour recours au sexe tarifé depuis 2015. Et puis, il y a quelques jours, Médecins sans frontières a reconnu 24 cas de harcèlement ou abus sexuels dans cette organisation depuis 2017. Et même en 2002, les Nations Unies ont établi une code de bonne conduite pour les agents humanitaires, mais le Haut Commissariat pour les réfugiés dénonce dans la même année de très nombreux cas d'exploitation sexuelle d'enfants réfugiés dans plusieurs pays.
En Afrique, notamment, on ira là-dessus dans un instant avec Christina Okello. Avant cela, Théung Pham, on se souvient qu'en mai 2008, l'ONG Save the Children avait dénoncé des cas d'abus sexuels dans des camps de réfugiés en Côte d'Ivoire, au Sud-Soudan et en Haïti. Hein.
Voilà, cette ONG a cité plusieurs affaires de viol, d'agression sexuelle et des cas d'exploitation sexuelle sur des mineurs. La plupart sont des enfants pauvres, des orphelins, et qui ont été déplacés à la suite des conflits. Même les Nations Unies ont également visé par les accusations de viol et de relations sexuelles, impliquant les soldats déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Donc plusieurs affaires ont été dévoilées dans des pays comme le Népal, le Centrafrique, Haïti, aux Républiques démocratiques du Congo ou encore en Côte d'Ivoire.
L'Afrique, justement, Christina Okello, vous dites qu'il y a un vrai risque pour les pays les plus pauvres,
comme le Soudan, le Tchad, qu'on va voir tout à l'heure. Oui, tout à fait, Philippe, l'Union européenne a déjà menacé de retirer son versement de 30 millions d'euros à l'Oxfam en raison de ce scandale. Mais curieusement, le gouvernement britannique de Theresa May a maintenu son soutien financier à l'organisation, tout en exigeant bien sûr un comportement exemplaire. Mais il faut dire que les difficultés que traverse l'ONG sont aussi exploitées par une aile très à droite de l'échiquier politique qui ne veut pas, à l'heure du Brexit, que l'argent des États partent à l'étranger pour venir en aide aux pauvres. C'est en tout cas ce que pense Louisa Henria, une professeure de l'université de Bath. Je vous propose de l'écouter.
I think they should be concerned about the more general trend.
Que vous a dit Louisa Henria?
Donc elle explique qu'il y a une remise en question au Royaume-Uni de la valeur de l'aide humanitaire. Elle coûte cher à l'État. Les financements l'an dernier s'élevaient à plus de 30 millions d'euros, le même montant que cette enveloppe européenne, et certains ne veulent plus payer cette facture. Et c'est quelque chose dont les pays africains doivent se soucier, selon Louisa Henria, des pays comme le Tchad, le Somalie, le Soudan. Henria exhorte à ses dirigeants de faire preuve de vigilance pour contraindre le Royaume-Uni ou la France à prendre la responsabilité vis-à-vis de ses anciennes colonies. Elle leur demande de mettre la pression sur Londres et Paris pour éviter tout affaiblissement de l'aide humanitaire.
C'est une question sur laquelle vous êtes penché également à la rédaction vietnamienne, Théung Pham.
Donc, bien sûr qu'il y a des conséquences sur les actions humanitaires. En ce qui concerne Oxfam, environ 7000 donateurs réguliers ont interrompu le versement à cette organisation en ces 10 derniers jours. Mais c'est tout le secteur humanitaire qui a touché, parce que même si tous les humanitaires ne sont pas des prédateurs sexuels, mais les ONG craignent les amalgames. Donc, en fait, ça va créer un doute chez les donateurs, parce qu'ils ne savent plus comment leur argent sera utilisé quand ils voient qu'il y a des agents humanitaires qui se payent des prostituées au lieu de secourir la population en détresse.
Christina Okello, comment donner de l'argent justement aux personnes qui commettent des abus contre ceux qu'ils sont censés protéger finalement?
En dévoilant un grand plan d'action, Philippe, c'est ce que la directrice mondiale de l'ONG, Winnie Byanyima, a fait vendredi dernier. Parmi les mesures annoncées, il y aura notamment une nouvelle base de données pour passer au crible les références de toute nouvelle recrue pour savoir si les candidats n'auraient pas déjà commis d'actes sexuels auparavant. Et Byanyima insiste aussi que ce qui s'est passé en Haïti ne se reproduirait plus. Je vous propose d'écouter la directrice mondiale de l'ONG, Winnie Byanyima.
What happened in Haiti and the way it was handled was unfortunate, but it wouldn't happen today.
Donc elle explique que les systèmes de prévention d'Oxfam ont été renforcés depuis son intervention en Haïti, intervention très controversée, on a bien vu, et qui a poussé le gouvernement haïtien à retirer à l'organisation humanitaire son autorisation de travailler sur son territoire. Byanyima ajoute aussi que tous ses salariés sont respectueux, avant de se corriger que la plupart le sont, et il ne faut pas laisser quelques pommes véreuses salir l'image de l'organisation et surtout compromettre le bon travail qu'elle fait pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Soit l'ancienne humanitaire Imogen Wall demande à ce que ce plan d'action soit généralisé à toutes les ONG, car Oxfam n'est pas le seul concerné, comme mon confrère vient de dire. Il y a aussi d'autres cas d'harcèlement sexuel. Mm-hmm. Écoutons Imogen Wall.
Unless you have some kind of shared database.
Que dit Imogen Wall?
Elle dit qu'en l'absence d'une base de données partagée par tous, des pommes véreuses, généralement des hommes, continueront à violer en toute impunité grâce à des fausses références. Elle cite l'exemple du Royaume-Uni où il existe un registre qui repère les anciens agresseurs sexuels, le fameux Sex Offenders List, qui permet de protéger des enfants ou les personnes vulnérables. Elle ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le secteur humanitaire n'a toujours pas mis en place un tel dispositif. Désormais, il devra mettre les bouchées doubles pour, selon elle, rattraper son retard et regagner la confiance du public.
Un tel homme, justement, comment peut-on éviter pareil dérapage? Il y a quelques pistes que vient de détailler Christina, il y en a d'autres.
Oui, je crois qu'il faudrait combattre la culture du silence. Ils commencent à le faire, les ONG, maintenant. Dans le cas d'Oxfam, on a vu que les employés en faute ont été licenciés ou ont été forcés de démissionner. Mais le dirigeant ont bien passé sous silence tous ces scandales. Dans ce même cas que dans l'Église catholique, il y a beaucoup de cas d'abus sexuels sur les mineurs par les prêtres. Mais pendant longtemps, le supérieur ont passé sous silence ce scandale en achetant le silence des victimes ou en mutant les prêtres coupables vers d'autres lieux. Donc, il faudrait, je crois, que s'assurer du casier vierge des employés humanitaires parce qu'ils sont en contact permanent avec les personnes vulnérables, surtout les enfants.
Ladane Firouzbar, il y a en Iran des dénonciations de viols d'enfants, commis cela par un célèbre récitant du Coran.
Oui, Saïd Toussi, 46 ans, est un des célèbres, des plus célèbres récitants d'Iran. Ce fameux lecteur du Coran enseigne ce livre saint aux enfants et adolescents, accusé d'avoir abusé sexuellement une dizaine de gamins de 12 à 14 ans. Durant les 7 dernières années, 4 de ses anciens élèves ont déposé la plainte contre lui. 5 ans plus tard, ces accusations ont filtré dans la presse. C'était en 2016. Ensuite, certains médias l'ont accusé d'avoir violé 19 enfants et assurent qu'elle possède des preuves.
Que dit l'intéressé pour sa défense?
Saïd Toussi a rejeté toutes les accusations dans un communiqué où il dénonce une attaque des médias sous la coupe de l'impérialisme et du sionisme. Et l'ennemi tente à travers moi de diffamer le guide suprême parce qu'il est proche du guide suprême, affirme-t-il. Et les plaignants ont démenti tout lien avec l'étranger, mais ils ont signalé qu'il est difficile de démontrer certaines accusations.
Quelle est la réaction des autorités?
Les Les Iraniens sont divisés sur ce sujet, mais tous demandent que la justice, la lumière soit faite par la justice. Deux ans plus tard, la justice n'a pas reconnu coupable ce fameux lecteur du Coran. Certains connaissent cette décision comme une indication de l'influence du guide suprême sur la justice.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. La rédaction anglophone, tout d'abord, elles sont connues pour leurs plages de sable blanc, leurs lagons d'eau bleue turquoise, mais depuis des semaines maintenant, les Maldives sombrent chaque jour un peu plus dans le chaos politique. Des hommes politiques sont arrêtés, emprisonnés, des juges de la Cour suprême sont poursuivis pour tentative de déstabilisation et l'état d'urgence est prolongé. Autrement dit, Christina Okello, l'enfer s'invite au paradis.
Oui, Philippe, et ce décalage a été beaucoup commenté par les réseaux sociaux cette semaine. Certains défendent bec et ongles cette image d'un pays paradisiaque et insouciant, et d'autres craignent le retour d'une dictature politique. C'est l'avis d'un membre de l'opposition, Abdullah Shahid, qui a été expulsé cette semaine du Parlement par la police lors du vote du projet de loi pour prolonger l'état d'urgence. Et ce projet, il faut rappeler, a été très critiqué, notamment parce que 12 députés de l'opposition avaient été suspendus la veille. Et pour Shahid, cette mise à l'écart de l'opposition est la seule raison pour laquelle le projet a été voté. Écoutons-le.
We have slipped down into a completely repressive state.
Que dit Abdullah Shahid ?
Il explique que les Maldives sont en train de revenir en arrière, que le président et ses généraux se sont accaparés de tous les rouages du système politique et judiciaire qui, en temps normal, sont là pour restreindre le pouvoir du président. Or, avec l'état d'urgence, ces deux garde-fous ont été supprimés et lui ne voit pas d'autre mot pour décrire cette situation qu'une dictature militaire.
Pourtant, dans les allées du pouvoir, c'est une autre interprétation qui circule.
Oui, tout à fait, Philippe. À la rédaction anglaise, nous avons voulu savoir pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire de prolonger l'état d'urgence, étant donné qu'a priori, il n'y a pas eu de grandes manifestations dans les rues. D'après Mohamed Chaini, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et un membre de la coalition, cette décision de l'exécutif était nécessaire pour prévenir un coup d'état judiciaire. Je vous propose de l'écouter.
We found out that there are some cases of bribery, there are some cases of corruption.
Donc, Monsieur Chaini explique que les deux juges de la Cour suprême qui ont été arrêtés auraient tenté de destituer le président Yamin, et c'est le plus important, en corrompant des membres de l'opposition. Résultat, il y a désormais une enquête en cours, car d'après le ministre Chaini, il y a suffisamment de preuves pour pointer du doigt un coup judiciaire. Et tout ça a commencé, bien sûr, le 1er février dernier, pour la rappeler.
Oui, il n'y a pas si longtemps, tout a dégénéré.
Oui, c'est là que la haute juridiction a infligé un camouflage au régime maldivien en cassant les condamnations de 9 éminents opposants, y compris le rival du président, M. Mohamed Nasheed. Et depuis, les 3 magistrats sont revenus sur la décision. Mais ceci n'a nullement calmé le jeu. Au contraire, explique l'expert Gareth Price du think tank londonien Chatham House. Écoutons-le.
The whole crisis at the root is to do with the judiciary.
Quelle est l'analyse de Mohamed Chaini?
Donc, Price explique que les juges ont eu un moment de prise de conscience et ont voulu relâcher ces prisonniers politiques, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort et que c'était dangereux pour eux. Donc, ils ont changé leur vie. Et Price conclut en jugeant que l'île est dans une pagaille pas possible. Elle est trop petite pour tous les acteurs qui luttent pour le pouvoir.
Les Maldives ne sont finalement qu'un confetti sur la planète. Pour autant, vous nous dites que la situation mérite d'être suivie de très près.
Oui, Gareth Price répond que même si les Maldives sont un tout petit pays, elles ont une grande capacité de nuisance, car beaucoup de jeunes sont partis grossir les rangs de Daesh en Irak ou en Syrie, et c'est suffisamment important pour que l'Inde, son voisin, hausse le ton et menace d'intervenir militairement.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation politique aux Maldives avec Christina Okello de la rédaction anglophone de RFI. Venons-en à la mort d'un écologiste, un Irano-Canadien, Kavu Sayed Emami, qui était en prison, accusé d'espionnage. Tout cela soulève beaucoup de questions et préoccupe de nombreuses personnes en Iran. Tout d'abord, Ladan Firouzbar, dites-nous en plus sur cet homme.
Oui, Kavu Sayed Emami, un sociologue, écologiste et universitaire irano-canadien, 64 ans, était à la tête de la Fondation Persane du Patrimoine de la Faune, l'une des plus importantes organisations non gouvernementales pour la protection des espèces menacées en Iran, avait été arrêté le 24 janvier et détenu à la prison d'Evin dans le nord de Téhéran. Les autorités ont présenté sa mort en détention comme un suicide. Le procureur de Téhéran, qui a confirmé son suicide, a annoncé l'arrestation de quelques autres militants environnementaux qui, d'après lui, menaient des activités d'espionnage en récoltant des informations classifiées dans les domaines stratégiques.
Nombreux sont ceux qui remettent en question cette version officielle de ces circonstances de sa mort, du suicide finalement.
Oui, certains étudiants, activistes, universitaires, avocats ont mis des doutes sur les informations officielles sur sa mort, comme par exemple Madame Shirin Ebadi, l'avocate et la lauréate du prix Nobel de la paix. Je vous propose de l'écouter.
احتمال خودکشی ایشان تقریبا صفره برای اینکه
Quel est le commentaire que fait Shirin Ebadi?
Elle dit, considérant les conditions dans les prisons, parce qu'elle était prisonnière en Iran avant qu'elle ait eu la lauréate du prix Nobel, la probabilité du suicide est presque infime parce que les prisons sont bien équipées, il y a des caméras, etc. Comme ça.
Ladan, en Iran, les accusations d'espionnage sont souvent utilisées contre des hommes qui ont la double nationalité, comme c'était le cas de cet homme.
Exactement, oui. Actuellement, Nazanin Zaghari Ratcliffe, l'Irano-Britannique, un père et son fils irano-américaine, Barer et Siamak Namazi, et Ahmadreza Djalali, médecin, chercheur suédois, sont en prison. Et le dernier est condamné à mort. La mort en prison de Kavu Seyed Emami s'ajoute à d'autres décès en détention présentés comme des suicides, dont celui de Sina Rambari, arrêté lors du soulèvement de ces derniers mois, et Zahra Bani Yaroub, étudiante en médecine en octobre 2007. Ces morts ont poussé certains élus à demander des comptes des responsables des prisons. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, deux prisonniers se soient suicidés à la prison d'Evin? Les responsables de cette prison doivent accepter la responsabilité de la vie des prisonniers.
Et la rédaction Personne de RFI, avec vous, Ladan Firouzbar, suit tout cela bien évidemment de très près. Dans les toutes prochaines semaines, un porte-avions américain fera escale au Vietnam. L'USS Carl Vinson fera relâche dans le port de Da Nang, ce sera du 5 au 9 mars. Et Thieu Phan, c'est une visite historique.
Oui, c'est ça, parce que pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont certes mobilisé des porte-avions, mais ces porte-avions sont restés au large, car c'était trop dangereux de s'approcher des côtes vietnamiennes au risque d'être attaqué par les forces communistes. Donc cette visite, c'est un signe de l'intensification des relations militaires entre les deux pays anciens ennemis, plus de 4 décennies après la guerre du Vietnam. Et le choix du port de Da Nang est déjà fortement symbolique, parce que c'est là que les premiers soldats américains ont débarqué pendant la guerre du Vietnam. Et une telle visite d'un porte-avions américain, symbole de la puissance militaire américaine, pourrait amener le plus grand nombre de militaires américains au Vietnam depuis la fin du conflit en 1975.
Et tout cela intéresse au plus haut point les Vietnamiens.
Oui, surtout les responsables vietnamiens, parce que avant cette visite à Da Nang, le vice-ministre vietnamien de la Défense est déjà monté sur ce porte-avions au sud de la Californie en octobre dernier pendant sa visite aux États-Unis. Donc avant ce porte-avions, il y a d'autres navires de guerre américains ont visité le Vietnam.
Mais un autre niveau, hein, voilà, ça n'avait pas la même ampleur. Voilà. Quel est l'état justement des relations militaires entre le Vietnam et les États-Unis?
Donc les liens militaires entre les deux pays sont de plus en plus serrés, car ils ont la même inquiétude face au comportement agressif de la Chine, en mer de Chine méridionale. Pour le Vietnam, c'est une question de souveraineté, parce que ce pays est en dispute territoriale avec la Chine. Et pour les États-Unis, c'est une question de liberté de navigation, parce que la Chine méridionale, c'est une route commerciale très importante, même vitale, pour les États-Unis et pour le monde.
Et dans ce contexte, le Vietnam doit être un marché intéressant pour les fabricants d'armes américains, en quelques mots.
Bien sûr, face à la menace chinoise, le Vietnam essaie de faire diversifier les importations d'armes après la levée des États-Unis de l'embargo sur la vente d'armes létales au Vietnam depuis 2016.
Donc on voit que les choses changent très rapidement, en moins de 2 ans, entre les États-Unis et le Vietnam. Merci à vous, Thieu Phan de la rédaction vietnamienne de RFI. Dans quelques instants, les